Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le président tunisien limoge 57 juges. Kais Saied les accuse notamment de corruption. La Tunisie ou l'Union Générale Tunisienne du Travail a lancé un appel à une grève nationale le 16 juillet prochain. Grève dans les services et le secteur public. 3 Palestiniens tués ces dernières 24 heures en Cisjordanie occupée, là où l'armée israélienne poursuit ses opérations quasi quotidiennes après une série d'attaques en Israël. La fête de la radio jusqu'à ce vendredi, il s'agit de célébrer ce média, initiative de l'ARCOM qui a succédé au CSA. Regard dans votre journal sur la naissance des radios libres en France, sous la présidence de François Mitterrand, avec son ancien ministre de la Culture, Jack Lang. Coup de projecteur dans votre journal sur une pièce de théâtre sur le massacre du 17 octobre 1961 à Paris. Lamento pour Paris, la première se jouera ce vendredi soir au théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine. Son metteur en scène, Victor Quesada Pérez, vice-président du Festival Off d'Avignon, sera l'un de nos invités. Ce sera ce vendredi à Nanterre, conférence intitulée « Législative 2022, faut-il voter ?» Initiative du président de l'association Les Oranges, Mohamed Kaki, que nous écouterons. Cette décision du président tunisien, il a limogé 57 juges qu'il accuse de corruption. Kais Saied les accuse aussi de protéger des terroristes. Parmi les personnes limogées, Youssef Bouzaker, l'ancien chef du Conseil supérieur de la magistrature. Un conseil dont Kais Saied a remplacé les membres cette année alors qu'il prenait le contrôle du pouvoir judiciaire. Dans une allocution télévisée, le chef de l'État tunisien a déclaré qu'il avait donné occasion après occasion et avertissement après avertissement au pouvoir judiciaire pour qu'il se purifie. La Tunisie ou l'Union Générale Tunisienne du Travail a lancé un appel à la grève nationale le 16 juin prochain. Une grève dans les services et le secteur public. La centrale syndicale déplore le refus du gouvernement d'augmenter les salaires malgré l'inflation. Et cela arrive alors que le gouvernement tente de parvenir à un accord avec le Fonds monétaire international pour surmonter la grave crise financière dans laquelle le pays est plongé. Le gouvernement souhaite obtenir un prêt de 4 milliards de dollars auprès du FMI en échange de réformes comme une baisse des subventions pour les produits alimentaires et l'énergie et des gels de salaire. 3 Palestiniens ont été tués en 24 heures en Cisjordanie occupée. Un Palestinien âgé de 29 ans a été tué par les forces de sécurité israéliennes ce jeudi matin dans un camp de réfugiés près de Bethléem, dans le sud de la Cisjordanie. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des soldats visés par des cocktails Molotov et des tirs ont répondu et tiré à balles réelles. 6 Palestiniens ont été blessés. L'un d'eux a succombé à ses blessures à l'hôpital, c'est ce qu'indiquait le ministère de la Santé palestinien. Et mercredi matin, une Palestinienne qui, selon l'armée israélienne, s'approchait avec un couteau d'un soldat près du camp de réfugiés palestiniens d'Al Aroub, près de Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, a été abattue. L'armée israélienne poursuit ses opérations quasi quotidiennes après une série d'attaques en Israël. C'est en ce moment la fête de la radio, cela dure 2 jours, il s'agit de célébrer ce média, initiative de l'ARCOM qui a succédé au CSA. Regard notamment sur la naissance des radios libres sous la présidence de François Mitterrand avec son ancien ministre de la Culture, aujourd'hui président de l'Institut du Monde Arabe, Jack Lang.
C'est après l'élection de François Mitterrand en 1981. À l'époque, les radios étaient exclusivement publiques, relevant du gouvernement, sauf certaines radios commerciales qui étaient des radios périphériques. Donc notre volonté en accédant aux responsabilités était de donner la liberté à des radios. Et à ce moment-là, se sont multipliées toute une série d'initiatives un peu partout en France, radios associatives, radios qui ont apporté un ton nouveau, l'esprit nouveau. Donc c'était une véritable révolution, les radios libres dans les années 81-82.
Et cela a été un véritable apport pour la culture française.
Ça a été un apport pour la culture française, dans beaucoup de domaines, dans le domaine musical en particulier, mais dans le domaine aussi du ton, du style, de l'esprit et de la liberté d'information aussi.
À l'occasion de cette fête de la radio, est-ce que vous pouvez nous faire part du lien que vous entretenez avec ce média ?
Oui, je continue à établir des liens avec certaines d'entre elles, certaines de ces radios. Plusieurs, malheureusement, sont devenues très commerciales et sont assez éloignées de l'esprit pionnier des années 81-82. En même temps, c'est une bonne chose que la France puisse assurer une variété d'expression à travers les radios publiques et les radios non publiques.
Et quel regard portez-vous sur le déploiement de la radio numérique du DAB+ ?
Je crois que c'est un apport tout à fait décisif, à la fois en qualité et en possibilité technique d'expression.
Jack Lang, ancien ministre, notamment de la culture sous la présidence de François Mitterrand. Jack Lang, aujourd'hui président de l'Institut du Monde Arabe. Une grâce présidentielle en Égypte. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a gracié Yahya Abdel-Hadi. Cette figure de l'opposition était détenue depuis 2019 pour diffusion, selon la justice égyptienne, de fausses informations. Cela n'était pas arrivé depuis 20 ans. Un mouvement de grève ce jeudi au sein du corps diplomatique français. Mouvement à l'appel de 6 syndicats et d'un collectif de 500 jeunes diplomates. Ils protestent contre la réforme de la haute fonction publique voulue par Emmanuel Macron. Réforme qui aura des conséquences sur les carrières diplomatiques. Des rassemblements ont été organisés ce jeudi devant le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à Paris et à Nantes, où se trouve le centre des archives diplomatiques. Regard sur une pièce de théâtre sur le massacre du 17 octobre 1961 à Paris. Lamento pour Paris est une pièce qui dévoile un pan de l'époque de la colonisation et du traitement social réservé aux nord-africains. La première se joue ce vendredi soir au théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine. La mise en scène est signée Victor Quesada Pérez, vice-président du Festival Off d'Avignon.
Je suis un metteur en scène issu de la ville de Colombes et j'ai grandi dans les quartiers populaires et j'y vis toujours d'ailleurs à Gennevilliers, mais toujours dans les quartiers populaires. Et évidemment, j'ai eu beaucoup de copains d'enfance qui étaient d'origine algérienne, dont leurs parents et leurs grands-parents avaient vécu des événements tragiques à la fois de la Seconde Guerre mondiale en tant que soldat pour la France et aussi par rapport à la guerre d'Algérie. Et Colombes est une ville où ont eu lieu aussi, d'une certaine manière, les massacres du 17 octobre 1961. Et tous les ans, il y a un hommage qui est rendu par les associations et les habitants de la ville qui font que cette année, j'avais proposé de lire des textes de lire de la poésie avec une comédienne metteur en scène qui s'appelle Myriam Halal. Et Myriam m'a parlé de cette pièce de Hammam Eliani et je lui ai dit, il faut la faire. Il faut faire un spectacle parce qu'il n'y a pas de spectacle, ou très très peu de spectacles. Sur le 17 octobre, il n'y en a pas. Sur la guerre d'Algérie, il y en a très peu. Et je trouve que c'est toujours très compliqué de monter des spectacles sur des thématiques tendues.
C'est un spectacle contre l'oubli. Comment mettez-vous en scène une telle tragédie ?
J'essaie de la mettre en scène sans l'aspect, avec beaucoup de respect, militant, anticolonial, etc. J'essaie de mettre l'accent sur à la fois l'injustice vécue par les manifestants, leur souffrance, leur mal-être et évidemment pour certains leur disparition. Et en faisant une sorte de parallèle un peu macabre sur le fait qu'aujourd'hui, on va parler de massacre à Bagdad, et dans 10 minutes après, on va montrer comment on joue très très bien au ballon. Et moi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Pas que je sois contre le fait de jouer au ballon, mais le fait qu'on est capable, nous, aujourd'hui, dans notre modernité d'esprit, notre intelligence un peu funeste, on a cette capacité de passer du coq à l'âne et de la souffrance au plaisir. Et c'est là-dessus où j'ai voulu mettre l'accent. J'ai quelques surprises de mise en scène qui vont surprendre beaucoup le spectateur à ce niveau-là.
Et quel lien entretenez-vous avec cette page sombre de l'histoire, la colonisation, la guerre d'Algérie et ce massacre du 17 octobre 61 ?
La part que je partage, c'est celle d'être moi-même fils et exilé politique de facto chilien, qui a aussi vécu, ma famille a vécu des moments terribles, notamment l'assassinat de mon grand-père par les militaires, l'exil politique très violent de mon père. Et j'en passe. Et c'est cette concomitance de la souffrance finalement qui fait que d'une certaine manière, je suis absolument sensible à ces événements. D'autre part, je suis aussi un natif d'Amérique du Sud. J'ai une grande partie de ma famille qui est natif, comme on dit. Et j'ai été souvent très surpris de l'aspect, entre guillemets, encore colonial qu'il peut y avoir en Amérique du Sud des États-Unis et leur emprise politique et culturelle sur certaines couches sociales. Et de ce fait, je pense que c'est toujours très simple de monter des spectacles, avec beaucoup de nuances, le très simple, mais c'est toujours très simple de monter des spectacles contre le nazisme, contre le fascisme, etc. Mais faire un spectacle qui dénonce une partie de l'État français dans sa manière d'avoir agi à un moment de l'histoire où ce pays était libre, entre guillemets, c'est une petite imprudence que je veux me permettre de commettre aujourd'hui.
Il y a aussi de la beauté qui émane de cette pièce parallèlement à cette tragédie.
La beauté, elle est dans la poésie du texte, elle est dans le fait qu'on reste dans l'art, et l'art, même s'il est froid, même s'il est dur, même s'il nous transmet quelque chose de terrible, l'art, quel qu'il soit, est beau. Cette anecdote de Guernica avec Picasso qui regarde Guernica et qu'un soldat allemand vient le voir à l'exposition universelle de Paris de 1938, et le soldat allemand demande à Picasso « C'est vous qui avez fait ça ?» et Picasso le regarde, le soldat allemand, et lui répond « Non, non, c'est vous. » Et ça reste Guernica.
Le metteur en scène, vice-président du Festival OFF d'Avignon, Victor Quezada Pérez. Le président de l'association Les Oranges, Mohamed Kaki, organise ce vendredi une conférence à Nanterre autour de la question législative 2022. Faut-il voter? À l'origine de cette question, la déception, selon lui, des habitants des quartiers populaires sur la question des investitures des candidats de l'Union populaire. Mohamed Kaki.
Il y a une déception générale dans les quartiers populaires, contrairement au premier tour des élections présidentielles qui avaient vu les quartiers populaires voter massivement, d'ailleurs en faveur du candidat Mélenchon. Nous sommes très inquiets cette fois-ci, pour une raison, c'est que les gens ne voient pas très clair les choses, c'est-à-dire que les législatives, bah d'abord il y a une nouvelle alliance à gauche hein, qui pose question, et puis surtout... La question, c'est voter, pourquoi faire ? Est-ce que beaucoup de gens se posent la question de la question du travail, du logement, de la culture, des discriminations, de l'environnement, des choses qui ne sont toujours pas réglées, et d'autant plus que lorsqu'on voit les choses de plus près à la loupe, beaucoup de leaders des quartiers populaires ont été évincés des circonscriptions, et en particulier les circonscriptions gagnables. Donc, on se dit qu'on est en train de revoir un film qu'on avait déjà vu dans d'autres élections au régional et d'autres, où à chaque fois les Français héritiers des quartiers populaires sont injustement, écartés au profit de gens que l'on considère plus légitimes. Et donc, vous voyez, c'est assez compliqué parce que d'un côté, on demande aux gens de se mobiliser, parce qu'il faut de la mobilisation collective, et d'un autre côté, eh bien, il n'y a pas de signe, je dirais, positif qui pourrait donner envie d'y aller. D'autant plus que on voit pas non plus des débats, on voit simplement des tambouilles ici ou là, des gens à haut niveau s'accorder entre eux, qui étaient fâchés avant-hier et qui sont aujourd'hui à coquiner, ça y est, ils ont oublié le passé, ils ont oublié tout ça. Donc que ce soit à droite ou à gauche, on n'y voit pas clair. Et donc nous, légitimement, l'association Les Oranges, notre but évidemment, c'est qu'il y ait un nombre de gens massivement qui aillent voter, parce que voter d'abord c'est un devoir, et c'est important, et puis c'est important de, je dirais, comme dirait Abdelmalek Sayad, exister, c'est exister politiquement, et donc voter c'est important. Mais ce n'est pas une mince affaire parce que tout simplement, eh bien, on voit une démobilisation. Et donc, nous, on va tenter de faire un débat qui mobilise. Parce que le débat, ce qui est important, c'est d'écouter les gens et de dire, bah voilà, moi, je vais aller voter. Moi, je ne veux pas voter parce que je suis déçu. Moi, ceci, moi, cela. Moi, est-ce que ce qu'on entend dans la rue, en fait, hein, quand on se balade dans les quartiers populaires, on se dit, oh, finalement, les gens disent quoi? Ils disent cette chose suivante. Est-ce que finalement ça va arranger ma vie? Est-ce que mon fils va trouver un boulot? est-ce que je vais pouvoir me soigner les dents ? Par exemple, il y a quelque chose d'extrêmement grave et vraiment ulcérant dans les quartiers populaires, c'est un truc simple, la santé. Soigner les dents aujourd'hui, ça coûte énormément cher et il faut véritablement justement une loi, quelque chose, un signe très fort qui nous dise que aujourd'hui, si demain on vote pour tel ou tel candidat, eh bien nos vies vont changer radicalement. Alors voilà pourquoi nous faisons cette magnifique rencontre avec, justement, et c'est très important, avec des acteurs des quartiers populaires. Parce que là, il ne s'agit pas d'aller chercher des chercheurs en sciences sociales et qui ont, bac plus 125. Non, là, ce sont des militantes et des militants. Il y a deux femmes, deux hommes, et qui vont Omar Slaouti, Naïma Selam, Aïssa Terchi, Yamina Grosjean, qui sont tous et toutes engagés depuis de très nombreuses années sur le terrain et qui mouillent leurs chemises et qui avec lesquels on va avoir un véritable échange franc, massif sur ces questions de faut-il voter pour que effectivement les gens eh bien, ils soient suffisamment outillés, et puis surtout qu'on redonne l'envie, le désir, de participer, de faire une participation citoyenne, à condition qu'il y ait du débat. Mais moi, je ne vois pas beaucoup de débat chez les candidats dans les circonscriptions.
Le président de l'association Les Oranges, Mohamed Kaki, il répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient, et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission, que peuvent faire les États-Unis face à la multiplication des tueries de masse ? Alexis Bachelet reçoit André Caspi, historien spécialiste des États-Unis, et Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université Paris 2 à Sas. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.